Cependant, César Borgia fut arrêté court au milieu de ses victoires. Grâce aux 200 000 ducats restés dans son trésor, Ludovic Sforza avait levé 500 gendarmes bourguignons et 8 000 fantassins suisses avec lesquels il était rentré en Lombardie. Trivulse avait donc été forcé, pour faire face à l'ennemi, de rappeler Yves d'Allègre et les troupes que Louis XII avait prêtées à César. En conséquence, César mit une partie des soldats pontificaux qu'il avait amenés avec lui en garnison à Imola et à Forli et reprit avec le reste la route de Rome. Alexandre voulut que son entrée fût un triomphe. Ayant donc appris que les fourriers de l'armée n'étaient plus qu'à quelques lieues de la ville, il fit envoyer par des coureurs l'invitation aux ambassadeurs des princes, aux cardinaux, aux prélats, aux barons romains et aux ordres de la cité d'aller au-devant du duc de Valentinois avec toute leur suite afin de solenniser le retour du vainqueur. Or, comme la bassesse de ceux qui obéissent est toujours plus grande que l'orgueil de ceux qui commandent, ces ordres furent non seulement remplis mais dépassés. L'entrée de César avait eu lieu le 26 février de l'an 1500, et quoique ce fût en pleine époque du jubilé, les fêtes du carnaval n'en commencèrent pas moins, plus bruyantes et plus licencieuses encore que d'habitude. Aussi, dès le lendemain, sous le voile d'une mascarade, le vainqueur prépara une nouvelle fête à son orgueil, et, comme s'il devait s'approprier la gloire, le génie et la fortune du grand homme dont il portait le nom, il résolut de représenter le triomphe de César sur la place de Navone, lieu ordinaire des fêtes du carnaval. En conséquence, il partit le lendemain de cette place pour parcourir toutes les rues de Rome avec des costumes et des chars antiques, debout dans le dernier, vêtu de la robe des anciens empereurs, le front couronné du laurier d'or et entouré de licteurs, de soldats et d'enseignes, ces derniers portant des bannières où était écrite cette devise « Aut César, aut nihil ». Enfin, le quatrième dimanche de carême, le pape conféra à César cette dignité si longtemps enviée par lui de général et gonfalonier de la Sainte Église. Pendant ce temps, Sforza avait traversé les Alpes et passé le lac de Côme au milieu des acclamations de joie de ses anciens sujets, qui avaient promptement perdu tout l'enthousiasme que leur avait d'abord inspiré l'armée française et les promesses de Louis XII. Ces démonstrations de joie éclatèrent avec une telle force dans Milan que Trivulse, jugeant qu'il n'y avait pas sûreté pour la garnison française à rester dans cette ville, se retira vers Novare. L'expérience lui prouva qu'il ne s'était pas trompé, car, à peine les Milanais le virent-ils faire les dispositions de son départ, qu'une sourde fermentation courut par toute la ville. Bientôt, les rues se remplirent d'hommes armés. Il fallut traverser cette foule grondante, l'épée à la main et la lance en arrêt. Et encore, à peine les Français eurent-ils franchi les portes que le peuple se répandit par la campagne, poursuivant cette armée de ses cris et de ses huées, jusque sur les rives du Tésin. Trivulse laissa à Novare 400 lances, plus les 3000 Suisses qu'Yves Allègre lui ramenait de la Romagne, et se dirigea avec le reste de son armée vers Mortare, où il s'arrêta enfin pour attendre le secours qu'il avait fait demander au roi de France. Derrière lui, le cardinal Ascagne et le duc Ludovic rentrèrent à Milan, au milieu des acclamations de toute la ville. Ni l'un ni l'autre ne perdirent de temps, et voulant mettre à profit cet enthousiasme, Ascagne se chargea d'assiéger le château de Milan, tandis que Ludovic passa le Tésin et vint attaquer Novare. Assiégés et assiégeants se trouvèrent alors enfants de la même nation, car à peine Yves d'Allègre avait-il avec lui 300 Français et Ludovic 500 Italiens. C'est qu'en effet, depuis 6 ans, les Suisses étaient devenus les seuls fantassins de l'Europe et toutes les puissances indistinctement puisaient l'or à la main dans le vaste réservoir de leurs montagnes. Il en résultait que ces rudes enfants de Guillaume Tell, mis ainsi à l'enchère par les nations, conduits par leurs engagements divers de leurs pauvres et âpres montagnes dans les pays les plus riches et les plus voluptueux, tout en gardant leur courage, avaient perdu, au frottement des peuples étrangers, cette antique rigidité de principe qui les avait fait citer longtemps comme des modèles d'honneur et de bonne foi, et étaient devenus une espèce de marchandise toujours prête à se vendre au dernier enchérisseur. Ce furent les Français qui firent les premiers l'expérience de cette vénalité qui devait être plus tard si fatale à Ludovic Sforza. En effet, les Suisses de la garnison de Novare, s'étant mis en communication avec ceux de leurs compatriotes qui formaient les avant-postes de l'armée ducale, et ayant appris que ceux-ci, qui ne connaissaient pas encore l'épuisement prochain du trésor de Ludovic, étaient mieux nourris et mieux payés qu'eux, s'engagèrent à livrer la ville et à passer sous les drapeaux milanais si l'on voulait leur assurer la même solde. Ludovic, comme on le pense bien, accepta le marché. Novare lui fut remise, moins la citadelle gardée par les Français, et l'armée ennemie se trouva recrutée de 3000 hommes. Ludovic alors fit la faute, au lieu de marcher sur Mortard avec ce nouveau renfort, de s'arrêter pour assiéger le château. Il résulta de ce délai que Louis XII, qui avait reçu les courriers de Trivuls et qui avait compris le danger de sa position, avait hâté le départ de la gendarmerie française, déjà réunie pour passer en Italie, avait envoyé le bailli de Dijon lever de nouveau Suisse et avait ordonné au cardinal d'Amboise, son premier ministre, de passer les Alpes et de s'établir à Asti pour presser le rassemblement de l'armée. Le cardinal y trouva un noyau de 3000 hommes. La Trimouille lui amena 1500 lances et 6000 fantassins français. Enfin, le bailli de Dijon y arriva avec 10 000 Suisses. De sorte, qu'y compris les troupes que Trivuls avait avec lui à Mortard, Louis XII se trouva avoir au-delà des monts la plus belle armée qu'un roi de France y eût jamais mise en bataille. Aussitôt, par une marche habile, et avant même que Ludovic fût informé de son rassemblement et de sa puissance, cette armée vint se placer entre Novare et Milan, coupant au duc toute communication avec sa capitale. Force fut donc au duc, malgré son infériorité numérique, de s'apprêter à livrer une bataille. Mais il arriva que, comme les préparatifs pour une affaire décisive se faisaient des deux côtés, la diète qui avait été instruite que les fils des mêmes cantons étaient sur le point de s'égorger, envoya l'ordre à tous les Suisses servant tant dans l'armée du duc de Milan que dans celle du roi de France de rompre leur engagement et de revenir dans leur patrie. Mais pendant les 2 mois d'intervalle qui s'étaient écoulés entre la reddition de Novare et l'arrivée de l'armée française devant cette ville, les choses, par l'épuisement du trésor de Ludovic Sforza, avaient bien changé de face. De nouveaux pourparlers avaient eu lieu aux avant-postes, et cette fois, grâce à l'argent envoyé par Louis XII, c'étaient les Suisses au service de la France qui se trouvaient être mieux nourris et mieux payés que leurs compatriotes. Or, les dignes Helvétiens, depuis qu'ils ne se battaient plus pour la liberté, savaient trop bien le prix de leur sang pour en répandre une seule goutte si cette goutte n'était pas payée au poids de l'or. Il en résulta qu'après avoir trahi Yves d'Allègre, ils se résolurent à trahir Ludovic. Et tandis que les recrues faites par le bailli de Dijon demeuraient fermes sous les drapeaux de la France, malgré l'injonction de la diète, les auxiliaires de Ludovic déclarèrent qu'en combattant contre leurs frères, ils se rendaient coupables de rébellion aux ordres de la diète et, partant, s'exposaient à une punition capitale que le paiement immédiat de leurs soldes arriérés pourrait seul les engager à encourir. Le duc, qui avait épuisé jusqu'à son dernier ducat et qui se trouvait séparé de sa capitale, dont une victoire seule pouvait lui rouvrir le chemin, promit aux Suisses non seulement leur solde arriéré, mais le double de cette solde s'il voulait faire avec lui un dernier effort. Malheureusement, cette promesse était soumise aux chances douteuses d'une bataille, et les Suisses déclarèrent que, décidément, ils respectaient trop leur patrie pour désobéir à ses ordres, et qu'ils aimaient trop leurs frères pour répandre gratis leur sang. Qu'en conséquence, Sforza n'eut plus à compter sur eux, attendu qu'ils étaient décidés à prendre, le lendemain même, le chemin de leur canton. Alors le duc, voyant que tout était perdu pour lui, et faisant un dernier appel à leur honneur, les adjura du moins de pourvoir à sa sûreté, en le comprenant dans la capitulation qu'ils allaient faire. Mais ceux-ci répondirent que cette clause rendrait la capitulation, sinon impossible, du moins la priverait des avantages qu'ils avaient droit d'attendre et sur lesquels ils comptaient pour les indemniser de l'arriéré de leur solde. Cependant, faisant semblant de se laisser toucher à la fin par les prières de celui dont ils avaient si longtemps suivi les ordres, ils lui offrirent de le cacher sur leurs habits et dans leurs rangs. Cette proposition était illusoire. Sforza, étant déjà vieux et court de taille, ne pouvait manquer d'être reconnu au milieu d'hommes dont le plus âgé n'avait pas 30 ans et le plus petit moins de 5 pieds 6 pouces. Cependant, c'était sa dernière ressource. Aussi, sans la repousser tout à fait, chercha-t-il un moyen, en la modifiant, de l'employer avec efficacité. C'était de se déguiser en cordelier et, monté sur un mauvais cheval, de se faire passer pour leur chapelain. Quant à Galeas de Sanseverino, qui commandait sous lui, et à ses deux frères, comme ils étaient tous trois de haute taille, ils prirent des costumes de soldats, espérant passer inaperçus dans les rangs suisses. Ces dispositions étaient à peine arrêtées que le duc reçut avis que la capitulation était signée entre Trivulse et les Suisses. Ceux-ci, qui n'avaient rien stipulé en faveur du duc et de ses généraux, devaient passer le lendemain, avec armes et bagages, au milieu des soldats français. La dernière ressource du malheureux Ludovic et de ses généraux était donc de se confier à leur déguisement. Ce fut effectivement ce qu'ils firent. Sanseverino et ses frères prirent rang dans les lignes des fantassins et Sforza, enveloppé dans sa robe de moine et son capuchon rabattu jusque sur les yeux, se plaça au milieu des bagages. L'armée commença de défiler, mais les Suisses, après avoir fait argent de leur sang, avaient songé à faire argent de leur honneur. Les Français étaient prévenus du déguisement de Sforza et de ses généraux. Aussi, tous quatre furent-ils reconnus, et Sforza fut arrêté par la Trimouille lui-même. On dit que le prix de cette trahison fut la ville de Bellinzona, qui appartenait à la France et dont les Suisses, en se retirant dans leurs montagnes, s'emparèrent, sans que Louis XII fît rien par la suite pour la leur reprendre. Lorsque Ascanio Sforza, qui, ainsi que nous l'avons dit, était resté à Milan, apprit la nouvelle de cette lâche désertion, il jugea que la partie était perdue, et que ce qu'il avait de mieux à faire était de fuir avant que, par un de ces revirements si familiers à la populace, il ne se retrouvât peut-être prisonnier des anciens sujets de son frère, à qui l'idée pouvait venir de racheter leur pardon au prix de sa liberté. En conséquence, il s'enfuit nuitamment avec les principaux chefs de la noblesse gibeline et prit la route de Plaisance pour gagner le royaume de Naples. Mais arrivé à Rivolta, il se souvint qu'il avait dans cette ville un vieil ami d'enfance nommé Conrad Lando, qu'au jour de sa puissance il avait comblé de biens. Comme lui et ses compagnons étaient extrêmement fatigués, il résolut de lui demander l'hospitalité pour une nuit. Conrad les reçut avec toutes les démonstrations de la joie la plus vive et mit sa maison et ses serviteurs à leur disposition. Mais à peine furent-ils couchés qu'il envoya un courrier à Plaisance pour prévenir Carlo Orsini, qui commandait la garnison vénitienne, qu'il était prêt à lui livrer le cardinal Ascagne et les principaux chefs de l'armée milanaise. Carlo Orsini, ne voulant remettre à personne une expédition de cette importance, monta aussitôt à cheval avec 25 hommes et, ayant fait envelopper la maison de Conrad, entra l'épée à la main dans la chambre où étaient le cardinal Ascagne et ses compagnons, qui, surpris au milieu de leur sommeil, se rendirent sans faire de résistance. Les prisonniers furent conduits à Venise, mais Louis XII les réclama et ils lui furent livrés. Ainsi, le roi de France se trouva maître de Ludovic Sforza et d'Ascagne, d'un neveu légitime du grand François Sforza, nommé Hermès, de deux bâtards nommés Alexandre et Contino, enfin de François, fils du malheureux Jean Galeas, qui avait été empoisonné par son oncle. Louis XII, pour en finir d'un seul coup avec toute la famille, contraignit François à entrer dans un cloître, fit jeter Alexandre, Contino et Hermès dans une prison, enferma le cardinal Ascagne dans la tour de Bourges et enfin, après avoir transféré le malheureux Ludovic de la forteresse de Pierre-Encise au Lys Saint-Georges, il le relégua définitivement au château de Loches où, après une captivité de 10 ans, au milieu de la solitude la plus profonde et du plus entier dénuement, il mourut en maudissant l'heure où l'idée lui était venue d'attirer les Français en Italie. La nouvelle de la chute de Ludovic et de sa famille causa à Rome une joie extrême, car en consolidant la puissance des ultramontains dans le Milanais, elle établissait celle du Saint-Siège dans la Romagne, puisque rien ne s'opposait plus aux conquêtes de César. Aussi, des présents considérables furent-ils faits aux courriers qui vinrent annoncer cette nouvelle, qui fut publiée par toute la ville de Rome au son des trompettes et des tambours. Aussitôt, les cris de « France, France !» qui étaient ceux de Louis XII et les cris de « Orso, Orso !» qui étaient ceux des Orsini retentirent dans toutes les rues, qui le soir furent illuminées comme si Constantinople ou Jérusalem étaient prises. De son côté, le pape rendit au peuple des fêtes et des feux d'artifice, sans s'inquiéter le moins du monde de ce qu'on était dans la Semaine Sainte et de ce que le jubilé avait attiré à Rome plus de 200 000 personnes, tant les intérêts temporels de sa maison lui paraissaient devoir l'emporter sur les intérêts spirituels de ses sujets. Une seule chose manquait pour assurer la réussite des vastes projets que le pape et son fils fondaient sur l'amitié et l'alliance de Louis XII, c'était l'argent. Mais Alexandre n'était pas homme à s'embarrasser d'une pareille misère. Il est vrai que la vente des bénéfices était épuisée, que les impôts ordinaires et extraordinaires étaient perçus pour toute l'année, enfin que l'héritage des cardinaux et des prélats n'était plus que d'un bien faible secours, les plus riches ayant été empoisonnés. Mais il restait encore à Alexandre d'autres moyens qui, pour être plus inusités, n'étaient pas moins efficaces. Le premier qu'il employa fut de répandre le bruit que les Turcs menaçaient d'envahir la chrétienté et qu'il savait de science certaine que l'été ne se passerait pas sans que Bajazet débarquât deux armées considérables, l'une dans la Romagne et l'autre dans la Calabre. En conséquence, il publia deux bulles, l'une pour lever dans toute l'Europe la dixième partie des revenus ecclésiastiques, de quelque nature qu'ils fussent, l'autre pour obliger les Juifs à payer la même somme. Ces deux bulles contenaient les excommunications les plus sévères contre ceux qui refuseraient de s'y soumettre ou qui tenteraient de s'y opposer. Le second fut de vendre des indulgences, chose qui ne s'était pas encore faite. Ces indulgences pesaient sur ceux que leur santé ou leurs affaires empêchaient de venir à Rome pendant le jubilé. Grâce à cet expédient, le voyage devenait inutile et, moyennant le tiers de la somme qui lui coûtait, les péchés étaient remis tout aussi complètement que si les fidèles eussent rempli toutes les conditions de leur pèlerinage. On établit pour la perception de cette taxe une véritable armée de collecteurs dont un certain Ludovic de la Thoère fut nommé le chef. Les sommes qu'Alexandre fit rentrer dans le trésor pontifical par ce moyen sont incalculables et on en aura une idée lorsqu'on saura que le territoire de Venise paya à lui seul 799 000 livres pesant d'or. Cependant, comme les Turcs firent effectivement quelques démonstrations du côté de la Hongrie et que les Vénitiens craignaient qu'ils n'arrivassent jusqu'à eux, ils firent demander du secours au pape. Alors le pape ordonna que dans tous les états, on dit, à l'heure du midi, un Ave Maria pour prier Dieu d'éloigner le danger qui menaçait la Sérénissime République. Ce fut la seule aide que les Vénitiens obtèrent de sa sainteté en échange des 799 000 livres pesant d'or qu'il avait reçus d'eux. Cependant, comme si Dieu eût voulu faire connaître à son étrange représentant qu'il était irrité d'une pareille raillerie des choses saintes, la veille de la Saint-Pierre, au moment où Alexandre passait près du campanile, se rendant à la tribune des bénédictions, une pièce de fer énorme s'en détacha et tomba à ses pieds. Mais comme si un seul avertissement n'eût point été une admonestation suffisante, le lendemain, jour de la Saint-Pierre, au moment où le pape était dans une des chambres de son appartement habituel avec le cardinal Capuano et Monseigneur Poto, son camérier secret, il vit par les croisées ouvertes s'amasser un nuage si noir que, prévoyant une tempête, il ordonna au cardinal et au camérier de fermer les fenêtres. Le pape ne s'était pas trompé, car, comme ils obéissaient à cet ordre, il vint un si furieux coup de vent que la plus haute cheminée du Vatican, renversée ainsi qu'un arbre qui se déracine, s'écroula sur le toit qu'elle enfonça et, brisant le plancher supérieur, vint tomber dans la chambre même où il se trouvait. À cette chute, qui fit trembler tout le palais et au bruit qu'ils entendirent derrière eux, le cardinal Capuano et Monseigneur Poto se retournèrent et, voyant la chambre pleine de poussière et de débris, ils sautèrent à l'instant même sur les parapets des fenêtres en criant aux gardes de la porte « Le pape est mort ! Le pape est mort !» À ces cris, on accourut et l'on trouva trois personnes étendues dans les décombres, l'une morte et les deux autres mourantes. Le mort était un gentilhomme siennois nommé Laurent Kigi et les mourants deux commensaux du Vatican. Ils passaient dans l'étage supérieur et avaient été entraînés avec les débris. Cependant, on ne trouvait point Alexandre et, attendu qu'il ne répondait pas, quoiqu'on l'appelât sans cesse, la croyance qu'il avait péri se confirma et se répandit bientôt par la ville. Mais, au bout d'un certain temps, comme il n'était qu'évanoui et qu'il commençait à revenir à lui, on l'entendit se plaindre et on le découvrit tout étourdi du coup et blessé, quoique non dangereusement, en plusieurs parties du corps. Une espèce de miracle l'avait sauvé. La poudre qui s'était brisée par le milieu avait laissé chacun de ses bouts dans les murs latéraux et l'un de ses bouts avait formé un toit au-dessus du trône pontifical, de sorte que le pape, qui y était assis en ce moment, avait été protégé par cette voûte et n'avait reçu que quelques contusions. Les deux nouvelles contradictoires de la mort subite et de la conservation miraculeuse du pape se répandirent aussitôt dans Rome, et le duc de Valentinois, épouvanté du changement que le moindre accident arrivé au Saint-Père pouvait amener dans sa fortune, accourut au Vatican, ne pouvant se rassurer qu'au témoignage de ses propres yeux. Quant à Alexandre, il voulut rendre des actions publiques au ciel de la protection qu'il lui avait accordée et se transporta le jour même, escorté par un nombreux cortège de prélats et d'hommes d'armes, porté sur son siège pontifical par deux valets de chambre, deux écuyers et deux palefreniers, à l'église de Santa Maria del Popolo, dans laquelle étaient enterrés le duc de Candie et Jean Borgia, soit qu'il lui fût demeuré dans le cœur quelque reste de dévotion, soit qu'il y fût attiré par le souvenir de l'amour profane qu'il portait à son ancienne maîtresse, la Vanoza, laquelle, sous la figure de la Madone, était exposée à la vénération des fidèles dans une chapelle à gauche du grand autel. Arrivé devant cet autel, le pape alors fit don à l'église d'un magnifique calice dans lequel étaient 300 écus d'or, qu'à la vue de tous, le cardinal de Sienne vida dans une patène d'argent, à la grande satisfaction de la vanité pontificale. Mais avant de quitter Rome pour accomplir la conquête de la Romagne, le duc de Valentinois avait réfléchi combien était devenu inutile à lui et à son père le mariage autrefois tant désiré de Lucrèce avec Alphonse. Il y avait bien plus, le repos que prenait Louis XII en Lombardie n'était qu'une halte, et Milan était visiblement le relais de Naples. Or, il était possible que Louis XII s'inquiétât de ce mariage qui faisait du neveu de son ennemi le gendre de son allié. Au lieu de cela, Alphonse mort, Lucrèce était en position d'épouser quelque puissant seigneur de la Marche, du Ferrare ou de la Bresse, qui pouvait seconder son beau-frère dans la conquête de la Romagne. Alphonse devenait donc non seulement dangereux, mais encore inutile, ce qui, avec le caractère des Borgia, était bien pis peut-être. La mort d'Alphonse fut résolue. Cependant, le mari de Lucrèce, qui avait depuis longtemps compris le danger qu'il courait en demeurant près de son terrible beau-père, s'était retiré à Naples. Mais comme, dans leur dissimulation constante, ni Alexandre ni César n'avaient changé avec lui la nature de leur relation, il commençait à perdre ses craintes lorsqu'il reçut une invitation du pape et de son fils pour venir prendre sa part d'une course de taureaux à la manière espagnole qu'il donnait pour fêter le départ du duc. Dans la position précaire où la maison de Naples se trouvait, il était de la politique d'Alphonse de n'offrir à Alexandre aucun prétexte de rupture. Il ne voulut donc point refuser sans motif et se rendit à Rome. Seulement, comme on jugeait inutile de consulter Lucrèce dans cette affaire, attendu qu'elle avait, dans deux ou trois circonstances, témoigné à son mari un attachement ridicule, on la laissa tranquille dans son appartement de Spolète.